Eh bien, comme chaque dimanche, on retrouve Nicolas Perpich pour l'actualité de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour Jean-Noël.
Et on parle de cette nouvelle étude qui montre que la Tasmanie est vraiment maintenant le meilleur État pour acheter une maison à un prix abordable.
Oui, voilà, alors voilà la Tasmanie, ce petit État, l'île en bas de l'Australie. Et en fait, il y a eu une étude faite par la Real Estate Institute. Et en fait, ils ont vu que pour le prix d'une seule maison à Sydney, on pourrait en acheter trois en Tasmanie. Donc c'est assez incroyable. Et si on regarde combien de notre salaire il faut dépenser pour maintenir l'hypothèque sur une maison en Tasmanie, bon, il faudrait à peu près 23,8%. C'est bien moins que les 30% qui sont vus comme le maximum si on peut dire que ça reste abordable. Alors, par exemple, à Sydney, Melbourne, c'est beaucoup plus haut que les 30% des salaires. Et en fait, la maison en Tasmanie, en moyenne, ça coûte 100 000 dollars moins qu'une maison en Australie du Sud. Et l'Australie du Sud, c'est l'État qui est le plus abordable après la Tasmanie. Donc, il y a 100 000 dollars de différence là. Puis après, bien sûr, le prix médian d'une maison en Tasmanie, c'est 365 000 dollars. Mais bien sûr, c'est plus que le double à Melbourne, c'est presque 850 000 dollars. Puis à Sydney, c'est plutôt 1 million de dollars. Donc c'est pas du tout abordable. Et bon, c'est sûr que maintenant, les hommes politiques commencent à parler de plus en plus de ça, mais il n'y a pas vraiment de solution pour les jeunes gens et les autres qui veulent acheter leur première maison, Jean-Noël.
Et puis, le Future Fund, l'énorme réserve d'argent du gouvernement australien, continue à croître rapidement.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un fonds qui avait été établi en 2006, pendant l'époque du Howard Government. Et en fait, le président du fonds, c'est Peter Costello, qui lui était le trésorier à l'époque. Et ça a été établi avec l'intention de pouvoir payer pour les 140 000 milliards de dollars de paiement pour les retraités ou pour la superannuation, en fait. Que le gouvernement aura à payer en 2020. Et là, on a vu qu'en 2016, alors l'année dernière, ce fonds-là, le Future Fund, a grandi par presque 8%, par 7,8%. Et maintenant, ça vaut 127 milliards de dollars. Donc, ça grandit assez vite. Et Monsieur Costello, donc, il a annoncé ses résultats-là cette semaine. Et en même temps, il a fait des références au nouveau président américain, Donald Trump, parce qu'il a dit que le Future Fund doit éviter à tout prix les grands risques. Et il dit que, bon, là, on a vu depuis l'élection de Donald Trump, les marchés ont plutôt bien réagi parce que M. Trump a dit qu'il allait investir énormément dans l'infrastructure. Et donc, ça fait monter les actions des compagnies un peu autour du monde, des compagnies minières et d'autres, ici en Australie aussi. Mais M. Costello, il a dit, bon, il est sûr que tout ça va vraiment se passer, mais c'est pas du tout sûr. C'est pas non plus pour demain. Donc, M. Costello, qui regarde de près la situation géopolitique, pour assurer que la Future Fund évite les plus gros risques internationaux et que ça puisse continuer à grandir comme ça a grandi en 2016 pour voilà payer ces frais énormes que le gouvernement va devoir payer en 2020 de à peu près 140 milliards de dollars. Mais bon, on n'est pas loin de ce chiffre-là déjà maintenant. Donc, si ça continue comme ça, on devrait y arriver.
Et puis, Nicolas, un nouveau débat sur le genre d'énergie que l'Australie va utiliser dans les années à venir.
Voilà, donc depuis très longtemps, l'Australie dépend sur le charbon. Il y a des mines de charbon en Australie, au Queensland par exemple. Mais il y en a pas mal qui ont fermé là maintenant, beaucoup de gens qui ont perdu leur poste de travail. Et là, le trésorier Scott Morrison, qui a jeudi indiqué la possibilité de construire des nouvelles centrales à charbon. Donc il a dit que ça pourrait être fait en utilisant de l'argent qui est déjà mis de côté pour la Clean Energy Finance Corporation. Donc, Monsieur Morrison qui a expliqué que selon lui, le charbon devrait avoir un rôle important dans l'économie australienne parce que, selon lui, ça peut être utilisé d'une façon plus propre maintenant. Et bien sûr, il y a beaucoup de jobs associés avec ça, non seulement dans les centrales, mais dans les mines aussi. Mais l'opposition travailliste, quand ils étaient au gouvernement, avait une politique beaucoup différente. Ils avaient le climate change, le changement du climat, c'était beaucoup plus important pour ce gouvernement-là. Donc, il y avait plus d'efforts pour promouvoir l'énergie solaire et le vent, l'énergie qui vient du vent. Et puis, si on regarde en ce moment, selon certains analystes, le prix de l'énergie produite par le charbon et le prix de l'énergie produite par le solaire ou le vent sont à peu près les mêmes, sauf que les prix de l'énergie renouvelable est en train de tomber. Donc c'est pour ça que c'est poussé par beaucoup de gens, mais selon les indications de Scott Morrison, c'est pas trop dans cette direction que le gouvernement veut aller, c'est plutôt peut-être refaire des nouvelles usines ou nouvelles centrales à charbon.
Voilà, merci à vous Nicolas, à la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Une courte pause et on continue avec le reste de l'émission.